l'artichaut.
C'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art. L'émission que vous retrouvez sur le 101.7. C'est deux rendez-vous par mois. Hello, hello. Bonjour à vous, auditeurs, auditrices. Bienvenue dans un nouvel épisode de Artichaut. Comme vous le savez, c'est le rendez-vous où on parle d'art et des icônes du 19e siècle. Avec Carotte.
Bonjour, bonjour les auditeurs, bonjour les fans de l'artichaut, bonjour les fans de la couleur et de l'art.
J'espère qu'ils sont nombreux à nous écouter aujourd'hui. On va parler du coup de l'artiste Paul Cézanne. Paul Cézanne, du coup, qui est né en 1839 et qui est décédé en 1906. Aujourd'hui, on va du coup parler de cet artiste-là, mais d'une œuvre en particulier, les joueurs de cartes. Donc, Paul Cézanne.
Alors, Paul Cézanne, c'est le peintre des peintres, si je puis dire. Alors, concernant ces joueurs de cartes, donc, il y en a eu plusieurs versions. Il y a la version à 4 joueurs, la version à 2 joueurs, la version à 3 joueurs. Pour ce qui est de ton article là concernant pourquoi c'est connu, donc parce que ça a été vendu, c'est une des œuvres qui a été vendue il n'y a pas très longtemps,
ouais,
des œuvres les plus chères.
C'est ça, la dernière fois qu'elle a été vendue à un prix assez impressionnant, c'était en 2011. Et donc c'est mentionné qu'il y a eu 5 versions des joueurs de cartes. Et parmi ces 5, il y en a 3 qui sont les plus chères du monde.
Bah là, moi, j'ai été voir justement sur Internet. Donc moi, la date que j'ai, c'est 2012 et c'est 180 millions d'euros pour une de ces toiles. Donc je ne sais pas en fait exactement laquelle. Et elles sont parties aux États-Unis, malheureusement. Alors Paul Cézanne, il fait partie d'un mouvement. Bon, tu sais que j'aime pas ranger les peintres par case, mais bon, faut quand même le dire puisque c'est la culture générale. Hein. Donc c'est le mouvement du post-impressionnisme. Donc on peut dire au-delà de l'impressionnisme. Il faut savoir que il a une enfance un peu mariole parce que son père a commencé comme ouvrier chapelier. Donc plutôt dans la précarité et la pauvreté. Et puis ça a bien marché. Donc il a profité de l'essor économique dû à l'Empire de ces années-là pour finalement faire fabriquer ses chapeaux et en avoir plus, créer une petite usine de chapellerie et puis finir par acheter une banque.
Donc du coup... Quel dommage. Comment on passe de la création de chapeaux à banquier
à
putain.
Du coup, lui, il a vraiment surfé sur cette vague d'essor économique et de productivisme. Et il a été, on va dire, malicieux. Mais ce qui fait que Paul, il est né dans un milieu ouvrier et il a fini dans un milieu bourgeois très aisé. C'est très important, l'enfance, pour les peintres, puisque souvent, ils se servent de leurs souvenirs d'enfance et les lumières et les endroits dans lesquels ils sont nés et ont grandi comptent beaucoup à leurs yeux et on peut le voir à travers leur œuvre.
Puis presque pour tout humain, ce qu'on vit dans l'enfance, ça a souvent des conséquences sur la personne qu'on devient. Et si on parle plus du côté personnel de Paul Cézanne, moi j'ai pu lire qu'il souffrait beaucoup d'un manque de reconnaissance et de confiance en lui.
Oui, et pourtant c'est pas à cause de ses parents, parce que malgré la situation financière de son père, qui n'était pas en début de carrière un grand bourgeois ou un bourgeois qui souvent peuvent permettre à leurs enfants d'avoir des carrières artistiques, et celui-là, il a permis à Paul de pouvoir être un artiste, enfin de choisir sa voie, bien que on est quand même dans une époque où c'est très structuré, les milieux sociaux sont très séparés les uns des autres et on souhaite souvent à son enfant une belle réussite sociale. Donc là, c'est l'art qui va gagner et je pense que par rapport à ça, il y a une ténacité et une forte personnalité de Paul Cézanne dès tout petit. Alors, Cézanne, il est autodidacte. Il n'a pas fait d'études d'art. Et Il a une véritable vénération aussi pour sa famille et pour sa mère en particulier, qu'il a peint de nombreuses fois. Quand son père va devenir riche, il va acheter une très belle maison qui s'appelle le Jas du Buffon et il va permettre à Paul de peindre directement sur les murs du salon.
Trop bien, ça c'est un papa qui encourage.
Lui, il était vraiment cool, il devait avoir peur de rien. En tout cas, il devait faire vraiment une confiance aveugle, si je puis dire, dans son fils. Et donc, à peine grand ado, il va pouvoir avoir des murs d'expression libre dans cette très belle maison dans laquelle il va aimer beaucoup vivre et puis venir et retourner quand il va revenir régulièrement de ses voyages à Paris, parce qu'il va aller finalement assez vite s'installer à Paris. Alors, faut savoir qu'il est quand même copain d'Émile Zola, parce qu'ils étaient au collège ensemble. Et du coup, cette amitié va énormément compter d'une manière politique et picturale et amicale et relationnelle, parce que les pommes, ils jouent un rôle prépondérant, parce qu'en fait, il va y avoir une petite embrouille, donc j'ai oublié la cause de l'embrouille entre Paul et Émile, mais toujours est-il que Zola va venir se faire pardonner avec une énorme corbeille de pommes, et la pomme, elle agit vraiment comme un symbole d'amitié, de fertilité, de reconnaissance, de gentillesse, enfin, la pomme...
De respect aussi.
Ouais, de respect. Enfin, la pomme qui va être quand même un sujet assez nombreux dans la peinture de Cézanne, ben, c'est ça, c'est des marques d'amitié. On pourrait voir ça aussi comme des assiettes avec tous ses amis ou tous les petits cœurs de ses amis. Enfin, il y a ce truc-là de la pomme qui est symbolique et tendre, enfin voilà. Donc moi, ce que je trouve dans le travail de Cézanne, c'est qu'il personnalise les choses et qu'il fait des paysages avec les humains. C'est l'artichaut. Là, donc, tu as les joueurs de cartes. Donc, les joueurs de cartes, on voit quelque chose de stable. À la fois, il y a une tension palpable des joueurs de cartes et à la fois, ils sont monolithiques. C'est-à-dire, ça pourrait être des arbres ou ça pourrait être des montagnes, justement, comme on va le voir avec la personnalité de la montagne Sainte-Victoire. C'est-à-dire, arriver à trouver la personnalité d'une montagne ou arriver à trouver chez les gens la stabilité ou la frivolité qu'on pourrait trouver dans la nature. Et du coup, on pourrait voir aussi la symbolique, que les cartes, c'est des œuvres d'art. Et on pourrait voir aussi un échange de petites cartes, comme des petites cartes d'art, des œuvres qu'on s'échangerait et qui feraient aussi des allers-retours entre les uns et les autres. Et on peut voir par là aussi les changements de mode et de goût. Donc quand tu disais qu'il avait manqué de reconnaissance, ben oui, comme tous les gens qui sont trop en avance. Mais cette toile, elle est particulièrement sincère parce qu'on pourrait voir ici comme un jeu de hasard de l'art et comment l'art, il va être séparé ou que ça va faire des tas, des bons tas, des mauvais tas, des tas de pioches. On redit le contexte un peu historique de ces moments-là, c'est-à-dire on est en pleine transition entre la peinture académique, celle qui est montrée au salon, la peinture qu'on appelle souvent pompier, donc c'est que des trucs mythologiques, tu sais, comme on avait montré avec des déesses qui ont le corps comme de la nacre, là, de toute blancheur, et des anges et tout ça. Et comme ça fait appel à la Grèce et qu'il y a souvent des soldats avec des casques comme les pompiers, c'est pour ça que cette peinture, après, dans le temps, on l'a appelée la peinture pompier, à cause de ces fameux casques gréco-pompiers des pompiers du feu. Mais voilà, ça manque de tripes, ça manque de sang, ça manque de sueur, ça manque de couilles.
On a beau être punk, con, boire des bières et tout le reste, il y a quand même un cœur qui bat avec un diwa.
Alors par rapport à ça, justement, Paul Cézanne, il va avoir une époque qu'il va appeler la couillarde, où voilà, il a envie de révolutionner tout ça, et donc il va prendre des tons beaucoup plus sombres, Donc ça ressemble plutôt à de la peinture post-romantique. Et il va aussi commencer à mettre le couteau, utiliser le couteau à palette pour mettre de la peinture. Et donc du coup, c'est des mélanges entre beaucoup de peintures un peu en tas et des endroits où c'est beaucoup plus aplani. Donc c'est difficile de se rendre compte sur les reproductions des bouquins d'art parce qu'il faudrait vraiment être devant la toile pour s'apercevoir là où vraiment il y a du relief et là vraiment où il y a du creux. Mais du coup, ça suit la matière, le volume de la personne. Alors, il dit aussi, pardon, qu'il faut voir la nature et les humains, entre autres, comme des formes géométriques et donc d'utiliser des cônes, des sphères et des cylindres pour peindre les choses de la nature. Donc ça lui est aussi très particulier. Et c'est pour ça, du coup, qu'il devient super moderne parce qu'en fait, après, il va inspirer les Picasso et la période carrément du cubisme, quoi. Parce qu'on va arriver à une forme d'abstraction où les détails n'existe plus. En fait, on gomme les détails et on simplifie. Alors, comme tous, et puis en plus, comme lui, il n'a pas de formation académique, mais qu'il a appris tout seul, il s'en trouve très démuni, parce que si tu n'as pas vraiment de maître et pas de reconnaissance, tu es un peu perdu. Et du coup, avec Paul Cézanne, c'est vraiment la peinture pour la peinture. C'est-à-dire, il y a une ténacité ouvrière derrière tout ça et de labeur qui est vraiment tout au long de sa vie, permanent. Donc il a vraiment un compte à régler avec la peinture et avec la représentation qu'il veut faire. Et il travaille comme un ouvrier, un peu seul, incompris, un peu solitaire. Et puis ensuite, il va beaucoup peindre la Provence, donc la montagne Sainte-Victoire, l'Estac, qui est un petit port près de Marseille, Gardanne. Donc les peintures qu'il va utiliser et qui vont être réutilisées après par ceux qui vont vraiment aimer son travail, c'est les verts, la palette des verts, les rouges sombres, les ocres et les bleus gris.
Sur celui des les joueurs de cartes, les personnages, ils sont peints dans un somptueux camailleux.
Ouais, des camailleux, donc vraiment par
avec brun, enfin camailleux brun et d'ocre aussi justement comme tu disais.
Et là, on voit bien que le tableau est d'assez grand format et on commence quand même à voir, tu vois, sur les lumières des vestes et tout, justement là où il y a pas mal de peinture en fait. Il va utiliser la peinture et il va la modeler comme ça au couteau pour donner la forme et l'éclairage naturel qui va tomber sur la partie du tas de sa peinture. Va donner aussi du relief et de la vivacité à tout ça. Et du coup, c'est plein de mélanges. On voit bien que c'est plein de textures. Les visages aussi, ils sont pleins de textures d'ocre. Et il y a aussi un petit peu du rose, et il y a un petit peu du jaune, et il y a un petit peu du vert. C'est l'artichaut !
Artichaut ! C'est vrai qu'en plus, comme ça, spontanément, on pourrait avoir l'impression que c'est un thème un peu classique, tu vois, des paysans qui jouent aux cartes. Et pourtant, Cézanne réussit à le traiter de façon assez singulière.
Quelque part, la société, en refusant leur travail, montrait qu'ils étaient imparfaits et ça les a obligés à se dépasser eux-mêmes. Alors, pour citer justement Paul Cézanne, il disait « L'approbation des autres est un stimulant dont il est très bon parfois de se passer. »
Vous écoutez Erdiwa et c'est extra.
Voilà, donc ça, c'est pour exprimer le fait que voilà, faut pas écouter ce que disent les gens, il faut continuer à faire ce qu'on a envie de faire et la façon dont on veut le faire. Degas, qui aimait beaucoup son travail, ou Gauguin, qui aimait également beaucoup son travail et qui s'en sont inspirés. Donc là, on a affaire quand même à deux types aussi de peintres qui ont des factures très, très différentes et des personnalités très différentes aussi. Il a inspiré Matisse, les fauves, les symbolistes, les nabis qui vont utiliser l'éclat des touches de couleurs et ensuite donner encore plus de couleurs en passant justement par plus les pommes. Et ça donne de la vie, ça rend les choses vivantes, scintillantes,
et ce côté décalé, justement, on le retrouve aussi dans les joueurs de cartes où justement les personnages, enfin il n'y a pas une seule ligne droite, on va dire, dans le tableau. Et ils se tiennent assis, du coup, les personnages, de façon légèrement décalée par rapport au plan du tableau. Et la verticale du bord du miroir à droite, c'est aussi en nom droit, quoi. Et ni les pieds de la table, ni la bouteille de vin, enfin, il y a tout qui est en décalé, ouais, et qui tangue aussi, voilà, un petit peu,
tangue,
quoi.
Ouais. Tout tangue. Et du coup, aussi, pareil, alors du coup, comme c'est après encadré, enfin, comme c'est sur un châssis rectangulaire, et puis qu'après, ça va être encadré, on voit bien aussi par rapport aux lignes droites du tableau, comment il est tout guingois, quoi. Il y a aussi là-dedans un côté, je sais pas, ça respire. Il y a un côté d'expansion, contraction, expansion, pardon. Les couleurs qui se contrarient. On dirait qu'il y a tout et son contraire. C'est très intéressant. Il y a une forme de globalité qui plaît à l'œil. C'est l'artichaut !
Artichaut.
Il faut savoir que la photo est aussi en grand développement dans ces années-là, donc on n'a plus envie de faire la réalité telle qu'elle peut être en photo, ça n'a plus aucun sens. Et là où c'est rigolo, c'est que quand il va y avoir les tubes de peinture, bon, bah, lui aussi, le fait que les peintures soient en tube, donc une prouesse technologique, une nouveauté technologique, va aussi bien sûr permettre aux peintres de travailler dehors, de pouvoir faire des esquisses sur place avec déjà des bases de tubes et de peinture. Enfin, ça rend le peintre beaucoup plus libre, hein. Ça le libère déjà de tout un travail de préparation des couleurs et des pigments et des mélanges. Et puis aussi, ça peut le rendre mobile. Alors du coup, il va finir par, à la mort de son père, il va toucher un beau petit pactole de sous. Et qu'est-ce qu'il va faire, le bon Paul Cézanne ? Tout de suite, il va se faire fabriquer un petit atelier pour lui. Et là, il va commencer à faire, ça va être peu de temps avant sa mort, donc c'est la dernière partie de sa vie. Et il va faire des toiles de très grand format, plus de 2 mètres, qui s'appellent les baigneuses. Et qui vont appeler, bien sûr, nous rappeler les Picasso, les Matisse, etc. Nanana. Donc à partir de 1902 jusqu'à sa mort en 1906, il va faire ses très grands formats et des nus dans la nature. Donc on sent aussi comme une liberté, quoi. Et aussi une réminiscence de l'ère du temps, de la jeunesse, aussi comme un paradis perdu, ce qu'on pourrait retrouver aussi chez Renoir. Les nus dans la nature, c'est la liberté, quoi. C'est être antisocial, tu vois. C'est le contraire de l'époque corsetée, gantée, machinée, nanana. Et puis après, il y a cette obsession de la montagne Saint-Victoire, en face de laquelle il est né, à côté de laquelle il va mourir, parce que son atelier est guère qu'à 2 km du sommet de la montagne Sainte-Victoire, qui, je le rappelle, n'est pas comme le Mont K ou l'Himalaya, elle ne mesure que 1000 mètres d'altitude. Donc en fait, c'est un mont. C'est même pas vraiment, on pourrait dire, une vraie montagne, quoi. Et là où c'est génial, comme Gauguin et sa peinture pour découvrir la Polynésie et les îles, Cézanne, lui, il va faire connaître partout dans le monde la montagne Sainte-Victoire. Il va la sacraliser, il va la faire passer pour une star et il va donner aux gens, bien sûr, envie. Enfin, il va faire de cet endroit un site sacré. Donc, il faut savoir que beaucoup de ses grandes œuvres et de ses grandes toiles sont parties aux États-Unis. Chicago, le Met et Philadelphie.
Ouais, c'est ça, il y a Philadelphie, New York et Londres.
Ben voilà. Il va laisser en 1906 une collection importante. Il va y avoir une volonté de donation de sa collection au musée parisien, qui bien sûr vont dire, Malo.
Orsay, le musée d'Orsay.
À cette époque-là, non. En 1906, quand il y a une proposition de la famille de faire don des œuvres de Cézanne au musée parisien, qu'est-ce qu'ils disent, les musées parisiens ? Ils disent non, on n'en veut pas, c'est de la merde. Et du coup, les œuvres vont partir dans des collections privées, essentiellement aux États-Unis. Il faut se demander qui sont les gens dans ces musées qui font les fonds patrimoniaux de notre culture française, parce que c'est quand même drôlement dommage. Et on l'a vu déjà au travers des autres portraits qu'on a fait, Berthe Morisot ou Gauguin. Tout ce qui est parti à l'étranger parce que les musées français n'en ont pas voulu, c'est ça, c'est-à-dire en plus on leur a proposé, quoi, on leur donne, et en fait non, ils disent non.
Ils disent non.
Alors du coup, il va quand même falloir attendre 1995, Malo, soit presque 100 ans après sa mort, ouais, pour qu'il y ait une énorme rétrospective à Paris et à Londres, qui agissent comme la reconnaissance enfin ultime de Cézanne comme le peintre des peintres.
T'es sur Erdiwa et on t'aime, ouais.
Peindre signifie penser avec son pinceau. Donc merci à Paul Cézanne, merci à son père qui a bien voulu le laisser faire carrière. Pas merci encore une fois au musée français et à ceux qui les gèrent.
Maintenant, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est des tableaux, en tout cas les quatre variantes des joueurs de cartes qui sont conservés dans les plus grands musées, notamment donc l'Orsay à Paris, et à New York, et à Londres, et à Philadelphie. Et tout à l'heure, t'en parlais, moi, il y a écrit ici que la cinquième version, en main privée, a été vendue à la famille, à la famille royale du Qatar pour un montant d'environ 250 millions d'euros.
Ouais, bah bravo.
De dollars.
Ouais, de dollars.
En 2011.
Ben voilà, ben bravo Cézanne. Enfin, je sais pas si. Il doit bien rigoler, lui. Il doit franchement bien rigoler parce que.
Qatar,
à part ses
copains.
Ouais, et le Qatar.
Merde.
Bon. En plus, normalement, ils aiment pas trop ça, mais c'est très bien. Et voilà, et en fait, c'est un diamant. C'est vraiment un diamant avec plein de facettes. Et chacune des facettes de son œuvre ont intéressé après des. Les peintres plus modernes, enfin voilà, c'est un moderne chez les anciens et même on peut dire que c'est un moderne chez les modernes parce que c'est la peinture avant tout. Et puis, merci aussi Degas parce que finalement, Degas dont j'aime pas tellement la facture, bien que grâce à ton émission, je suis allée chercher plus loin et donc je suis sortie des pirates de l'opéra pour aller voir ailleurs. Degas, il a acheté énormément de toiles à des gens que j'adore. Et il a agi comme un vrai collectionneur peintre auprès de ses copains. Et du coup,
ça a remonté son estime à tes yeux.
Non, mais à fond, parce qu'il a permis du coup à d'autres, on peut dire même concurrents de cette époque, parce que les places, elles étaient chères hein, au salon, que ce soit celui des refusés qui a fini par devenir celui où il fallait être en vue. Et le salon officiel, bon, les places étaient chères. Et de permettre à ses amis un peu concurrents de continuer à travailler, à peindre et à s'exprimer, bon, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire.
Vous êtes bien sur Radio Diwa.
Et pour finir, donc, tu me demandais une petite chanson, une petite chanson.
On laisse toujours nos auditeurs avec une petite musique parce que c'est pas cool de les quitter comme ça après plein de petites informations croustillantes sur l'histoire de l'art. Et alors, comme la musique fait partie du mouvement artistique, je suis sûre que tu as une super chanson à proposer.
Et la chanson, elle est toute trouvée. Donc, merci Michel Berger. Donc, c'est France Gall qui interprète Cézanne Pain. Et pour la petite histoire, cette chanson date de 1985, c'est-à-dire 10 ans avant la reconnaissance officielle de la rétrospective Cézanne. Donc, Michel Berger, lui aussi, avec cette petite chanson très jolie, était un petit peu un précurseur, un visionnaire, parce qu'il avait ressenti Cézanne avant les officiels. Voilà. Merci Malo, à tout vite.
À tout vite et merci à vous, auditeurs, auditrices.
Silence les grillons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline, c'est parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne Pain. S'accomplir la magie de ses mains, ses alpins. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe. couleurs. Il y met sa vie, le bruit de son cœur. Et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile. Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Ses alpins, il laisse s'accomplir le prodige de ses mains. Éclaire le monde pour nos yeux, qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien, quand c'est
Et en plus, sur Radio-Wa, vous savez ce qu'il y a ? Il y a de la musique. Et on ne peut pas vivre sans musique.